France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir, c'est donc les deux prochaines émissions qui sont un peu les deux dernières pour cette fois-ci. Vraiment, ça a été une expérience étonnante. Alors, je propose un truc pour cette avant-dernière, un truc étrange, presque inquiétant, anxiogène même. Je vais essayer de parler de la poésie. Immédiatement à ce mot, on a l'image caricaturale d'un acteur inspiré ou d'une actrice inspirée qui rentre sur scène pour dire « Poète, prends ton luth et me donne un baiser ». Alors, je vais essayer de m'interroger différemment et modestement sur ce qu'est la poésie et pas tellement sous l'angle que l'on imagine. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait un spectacle qui se nommait « Poésie », mais surtout avec le point d'interrogation, qui était évidemment le plus important. « Poésie, point d'interrogation ». Alors, je ne vais pas avoir la prétention d'interroger la poésie, mais je vais essayer, par le biais de Paul Valéry, par le biais d'Arthur Rimbaud, même par le biais de Chrétien de Troyes, qui a écrit un des premiers romans de la chevalerie en langue française, je vais essayer de parler de la poésie. Alors, il y a une phrase merveilleuse qui éclaire tout, c'est celle de Paul Valéry. Il dit cette phrase étonnante qui a été pour moi un choc. Il écrit « La plupart des hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. » C'est la première fois que quelqu'un illustre, incarne cette incroyable nébuleuse qu'est le mot poésie. Il le dit, la plupart des hommes ont une idée si vague de la poésie, on est d'accord, que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Vous voyez bien, vous voulez partir deux jours à Honfleur, vous tapez sur ces machines et vous tombez sur maison d'hôte, au centre-ville, dans cour. Ambiance poétique. Alors tu dis, pourquoi ils disent ambiance poétique? Parce qu'il y a du lierre sur les murs, bon, et puis qu'il y a une ambiance poétique. Non, ils ont qu'à dire qu'il y a une ambiance charmante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai trouvé par exemple la définition de la poésie du dictionnaire de l'Académie française. 14e siècle, emprunté par l'intermédiaire du latin poésis, du grec poésis, oui, enfin moi ça m'avance moyennement. Composition d'œuvres poétiques, lui-même dérivé de poyenne, qui veut dire créer. Ça m'avance moyen. Art du langage en vers. Art du langage en vers, rythme, figure par opposition à la prose. Mais là, modestement, je ne suis pas totalement d'accord avec le dictionnaire. La prose peut être totalement poétique. Une page du Voyage au bout de la nuit en Amérique est complètement poétique. Une page de Madame Bovary peut être poétique. Le cœur simple de Flaubert est poétique. C'est un poète, au lieu de dire poétique. Là, Flaubert est un poète. D'ailleurs, c'était son ambition. La poésie est souvent considérée, dit le dictionnaire, comme le premier des genres. Et pour les Grecs, la poésie était d'inspiration divine. Et le poète enfant des muses, et d'ailleurs Horace a défini la poésie comme une peinture parlante. Ah oui, là, ça commence à frapper fort. Peinture parlante, oui. Pourquoi les gens ont si peur de la poésie? Puisque la poésie est une peinture parlante. Ce qui, dans une œuvre d'art, un paysage, un objet, un être, suscite une émotion rare, d'ordre poétique. Par exemple, la poésie des derniers tableaux de Manet. Mais on peut dire aussi la poésie des derniers tableaux de Van Gogh, si vous aimez Van Gogh. Et là, il y a une définition qui nous éclaire, la poésie qui émane des ruines de la lagune de Venise. Bon, ça commence à se clarifier dans notre tête, et puis là, je vais attaquer avec Paul Valéry. Voilà ce que disait Paul Valéry sur le problème de la poésie, sur notre rejet de la poésie, sur la difficulté de la poésie, sur qu'est-ce que c'est la poésie et pourquoi c'est pas super populaire la poésie, même si on note ces derniers temps une énorme progression. Bizarrement, dans l'édition, la poésie se porte, paraît-il, un peu mieux que la littérature. Alors moi, je vais parler de Paul Valéry qui va nous ouvrir quelque chose. Voilà, cet extrait du bilan de l'intelligence. Je reviens donc à la langue parlée, écrit Paul Valéry. Je reviens donc à la langue parlée. Croyez-vous que notre littérature, et singulièrement notre poésie, ne pâtisse pas de notre négligence dans l'éducation de la parole ? Que voulez-vous que devienne un poète, un véritable poète, un homme pour qui les sons du langage ont une importance égale, vous m'entendez bien, égale, pour qui les sons du langage ont une importance égale à celle du sens, quand ayant calculé de son mieux ses figures rythmiques, la valeur de la voix et des timbres, il lui arrive d'entendre cette musique si particulière qu'est la poésie interprétée, je dirais plutôt massacrée, dit Valéry, par la diction scolaire telle qu'elle est pratiquée et qui est tout bonnement criminelle. Allez donc entendre du La Fontaine, du Racine, réciter dans une école quelconque. La consigne est littéralement d'annonner. Et d'ailleurs, jamais la moindre idée du rythme, poursuit Paul Valéry, jamais la moindre idée du rythme, des assonances, des allitérations qui constituent la substance sonore de la poésie, n'est donnée et démontrée aux enfants. On considère sans doute comme futilité ce qui est la substance même de la poésie, mais en revanche, on exigera des candidats aux examens une certaine connaissance de la poésie et des poètes, connaissance objective, il est né quand, quelle étrange connaissance. N'est-il pas étonnant que l'on substitue cette connaissance purement abstraite, la connaissance objective, et qui n'a d'ailleurs qu'un rapport lointain avec la poésie, à la sensation même du poème ? Cependant qu'on exige le respect de la partie absurde de notre langage, qui est sa partie orthographique, et là le génie de Paul Valéry est absolu, on tolère la falsification la plus barbare de la partie phonétique, c'est-à-dire de la langue vivante. Voilà, c'est quand même le génie des grands écrivains, tu comprends ? On tolère la falsification. Il dit « Allez dans une école quelconque et vous entendrez annonner ». Ben oui, parce que pour dire un texte, même quand on a 50 ans de métier, on ne le dit pas parfaitement, loin de là. Mais demander à des enfants de dire du Racine ou du La Fontaine avec tout le respect des allitérations, des rythmes, de la voix, de la connaissance organique du texte, ce que Valéry demande est impossible. Mais ça nous entraîne à cette phrase merveilleuse. On tolère la falsification la plus barbare de la partie phonétique. Alors, ce que j'essaye de comprendre avec Valéry, c'est que nous n'accédons pas à la poésie parce que nous, les interprètes, nous passons notre temps à falsifier la partie phonétique. Et on annonne, comme dit Paul Valéry. Alors, j'ai toujours dit, bon, annonner, évidemment, il faut beaucoup d'années pour essayer de moins annonner. C'est par Rimbaud, peut-être, qu'on peut rentrer dans cette pratique. « Ce passant considérable », disait Mallarmé. Arthur Rimbaud, ce passant considérable, et qui a essayé, lui aussi, de mettre en scène la langue vivante. Alors, il y a un texte qui s'appelle « L'alchimie du verbe ». Si je suis sincère, Rimbaud, il y a deux parties, ou trois parties, il y en a même plusieurs. Rimbaud, il y a un Rimbaud totalement accessible, c'est l'adolescent, c'est même pas l'adolescent, c'est la préadolescence, c'est le Rimbaud de 13 ans, 14 ans, 15 ans, bon, on connaît les poèmes, c'est le poète très simple, pendant une année et demie, en gros, c'est « Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature. Heureux comme avec une femme. Là, c'est un Rimbaud limpide. Il a 13 ans ou 14 ans. Il peut dire des poèmes comme « Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là c'est pas un baiser qui l'épeure, rieuse, m'apporta des tartines de beurre et du jambon dans un plat colorié. Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. » Bon, là on se dit, voilà, la poésie, c'est, il a capté, il a photographié l'instant, il l'a restitué de manière très simple. Alors la partie simple de Rimbaud ne dure pas longtemps, elle dure 1 an et demi. Après on rentre dans le génie et c'est le génie qui va écrire des trucs très difficile à comprendre, La saison en enfer, Les illuminations, Le bateau ivre, et là on rentre dans le grand écrivain et qui demande beaucoup d'humilité. Il y a un truc qui s'appelle l'alchimie du verbe. Alors, je vais le lire. À moi l'histoire d'une de mes folies, écrit Rimbaud. À moi l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvait dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Rien que cette phrase-là est très étonnante. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvait dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Là, il ose dire que tout ce qui a été fait avant lui n'est pas très intéressant. C'est ça, ça que ça veut dire. Hein. Je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Voilà, il veut faire une table rase. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livre érotique sans orthographe, roman de nos aïeuls, conte de fées, petit livre de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de race et de continent. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. O, bleu. U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Hein. Je réservais la traduction. Ça, c'est admirable. Hein. Je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Alors là, maintenant, il est temps de mettre de la musique. Alors, bizarrement, j'ai pris Bob Dylan. Pourquoi ? Parce que Bob Dylan adorait Rimbaud, comme beaucoup des gens de l'underground, beaucoup de la Beat Generation, tous les grands chanteurs ou tous les grands écrivains autour de Bob Dylan ont une passion pour Arthur Rimbaud. Je vais vous proposer Scarlet Town de Bob Dylan.
In Scarlet Town. Well, I was born. There's ivy leaf and silver thorn. The streets have names that you can't pronounce. Gold is down to a quarter of an ounce. The music starts and the people sway. Everybody says, are you going my way? Uncle Tom's still working for Uncle Bill. Scarlet Town is under the hill. Sweet William on his deathbed lay. Mistress Mary by the side of the bed, kissing his face, heaping prayers on his head. So brave, so true, so gentle is he. I'll weep for him as he'd weep for me. Limboard blue, come blow your horn in Scarlet Town, where I was born. Scarlet Town, in the hot noon hour, there's palm leaf shadows and scattered flowers. Beggars crouching at the gate. Help comes, but it comes too late. On marble slabs and in fields of stone, in Scarlet Town.
Alors les gens qui ont la chance de comprendre les paroles de Dylan, peut-être pourraient nous dire que ce texte a une composante poétique. Je pense que Dylan, certainement, un des secrets de son génie, c'est cette composante profondément poétique qui a provoqué chez toutes les grandes stars de l'underground et du Blue Velvet, etc., une admiration. Alors, il y a un poème de Rimbaud qui est un peu la référence, mais qui est dans la période déjà totalement différente du Rimbaud de 13-14 ans. C'est ce fameux bateau ivre. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais renoncer complètement à le dire pour des milliers de raisons. Ça fait 40 ans que je suis dessus. Et très honnêtement, on ne peut pas dire que ça progresse. Pourquoi ? C'est compliqué. C'est une anecdote, puisque j'aime beaucoup les anecdotes. Je suis comme maintenant, je suis un peu comme Cioran. J'aime beaucoup les anecdotes. Quand je préparais ce spectacle, il y a une quinzaine d'années, il m'arrivait de prendre des taxis. Et je prenais des taxis et je prévenais tout de suite le chauffeur qu'il ne s'inquiète pas, que j'allais parler tout seul, de manière plutôt à voix basse, et que j'allais mémoriser, mettre en bouche tous les textes qui me manquaient. Alors je rentrais, je lui disais, rassurez-vous, vous n'avez pas pris un dingue, ne vous inquiétez pas, et me voilà parti dans, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Et puis, un jour, un chauffeur adorable me dit « Oh, mais ce serait agréable pour moi que vous parliez plus fort. » Et il me dit « Vous savez, moi, j'aimerais bien... » Et puis, très gentiment, est-ce qu'il a menti ? Je ne sais pas. Il me dit « J'aimerais bien aller vous voir, mais les horaires ne sont pas faciles. » Je ne sais pas. Il me dit « Est-ce que vous ne pouvez pas parler fort pour que j'en profite ?» Alors, me voilà parti dans le taxi avec le monsieur. On est sur le périphérique. Et je commence à lui dire « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par des haleurs. » Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules démarrées n'ont pas subi Tobol plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. D'inuit, sans regretter l'œil niais, des falots plus douces qu'aux enfants. Et je continue, nous arrivons à destination. Et là, il me dit cette chose extraordinaire, il me regarde, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Mais j'ai rien compris !» me dit le monsieur du taxi. Et je lui ai répondu vraiment instinctivement « Ne vous inquiétez pas, moi non plus !» Et on a rigolé, et on est parti, on s'est séparés dans un très grand rire magnifique. Oui, parce que moi, je n'y comprends rien. Alors, je sais qu'on ne doit pas tout comprendre. Hein. On voit bien la tempête. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais vu la mer. Il écrit ça avant d'arriver à Paris pour épater tous les poètes. Hein, « La tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, d'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres. C'est qu'il nous demande de nous déplacer. Il nous demande d'abandonner la volonté d'avoir du sens. Parce qu'un jour, sa mère a regardé son travail pendant qu'il était revenu de son horreur belge avec le drame avec Verlaine. Et il travaillait en hurlant, il travaillait dans la grange et sa mère est venue le voir. Elle dit « Mais pourquoi tu hurles? Pourquoi t'es si malheureux ?» Et elle a regardé ce qu'il avait écrit. Et elle a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle comprenait rien à ce qu'il avait écrit. Et il a répondu « Ça veut dire ce qui est écrit. » Alors là, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations. Ça veut dire « Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. » Ah oui, on peut se laisser peut-être aller sans vouloir tout comprendre. Hein. L'eau verte, ça on comprend bien, l'eau verte de la mer pénétra ma coque de sapin. Et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et là, il y a une phrase magnifique. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie un noyé pensif parfois descend, ou teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent, et là je vous passe les détails parce qu'on rentre dans quelque chose de dément. Il dit j'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. Alors on se dit oh là 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 là, j'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides. Ah bon, j'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme. Non mais c'est ahurissant. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourri dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Et là, il continue, et ça se termine par « J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles ?» Millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur, et là c'est le constat de la dépression, de la tragédie de l'adolescence et de sa précocité, il écrit « Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer, l'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes, oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. » Et là, il nous dit que ce qu'il a adoré dans sa vie, c'est les flaques d'eau de son pays à côté de Charleville-Mézières. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. La flash, c'est le terme qu'emploient les gens de son coin pour parler des petites flaques d'eau qu'il y a. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide. où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs aux larmes. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, hein, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, c'est donc de lui qui parle, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Vous voyez, quand on est enfant, on met des petits bateaux de papier, etc. Et ça, c'est le mystère de la poésie, c'est le mystère de l'inaccessible. Et il dit, le dernier vers, « Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. » Le réalisateur et la réalisatrice m'ont demandé de dire ce dernier vers. C'est le plus compliqué de tous, mais je l'ai fait avec humilité. Mais si on dit qu'il y a là, c'est peut-être le maximum de l'incompréhension, mais peu importe, je l'ai dit. Alors maintenant, on va parler d'un poète beaucoup plus simple. C'est le premier poète de la langue française, c'est Chrétien de Troyes. Alors évidemment, Chrétien de Troyes, moi j'ai un souvenir particulier avec Chrétien de Troyes parce que c'est la première fois qu'un metteur en scène m'offrait une responsabilité si lourde de me donner un premier rôle dans un film assez cher, très cher pour les films de Romère, et ça a été une catastrophe du début à la fin, sauf pendant qu'on l'a préparé, parce que c'était merveilleux. Pendant un an et demi, je suis venu tous les jours dans le bureau de l'avenue Pierre Ier de Serbie, là où travaillait Éric Romère. Et je travaillais Chrétien de Troyes, parce que Éric Romère avait fait un truc extraordinaire. Il avait traduit, parce que Chrétien de Troyes, c'est écrit dans une langue totalement incompréhensible à notre époque. C'est une langue du XIIe siècle. C'est pas aussi simple que du temps de La Fontaine, on disait roué au lieu de dire roi. Tu vois, le roué, c'était le roi. Bon, avec un peu de mécanisme, on comprend bien ce que veut dire le roué, puisque c'est le roi. Et là, ça n'est pas du tout la même chose. Là, on n'y comprenait que dalle. Et donc, tous les gens ont traduit Chrétien de Troyes qu'avait écrit en vers, en octosyllabes, de 8 pieds. Ils avaient tous écrit, alors ça donnait de la prose assez moyenne. Ça donnait, par exemple, c'était au temps où arbres fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, où les oiseaux dans leur latin avec douceur chantent au matin. Bon, ça c'était la traduction. Mais ce que Romère a fait, c'est qu'il a traduit en vers de 8 pieds, le premier texte en le modernisant mais en respectant sa structure musicale des vers. Alors ça donnait « Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent, et les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin, et tout être de joie en flamme que le fils de la veuve d'âme dans le grand manoir solitaire se leva et ne tarda guère que sur la selle ne se mit de son cheval et qu'il ne prit 3 javelots et tout ainsi pour la vaste forêt pardit. Pour la vaste forêt pardit. Je vous dis la vérité, la première fois qu'on l'a montré, il y avait des groupes de 200 personnes qui se barraient hein, au bout de 2 minutes et demie. Parce que les mecs, ils avaient 2h20 d'octosyllabes, il avait sa clientèle de profs, de gens un peu pointus. Mais là, on l'avait présenté aux Champs-Élysées, et quand j'arrivais, que le cœur disait « Ce fut autant qu'arbres feuillissent, herbes et bois et... » Alors là, les gens atterrés, ça se barrait par centaines. Et Perceval, ça a été un truc extraordinaire, parce que je me souviens, j'arrivais, moi, je ne sais plus le texte, mais je crois que je peux m'en rappeler. « Ainsi, en la forêt, il entre. » Alors moi, je débarquais avec une espèce de coupe de cheveux très bizarre, et je devais dire à la caméra « Ainsi, en la forêt, il entre. » Et là, bon, j'arrivais, je rentrais, bon. Et puis, tout d'un coup, la merveilleuse Pascale Augier, qui nous a quittés si Artaud, qui était merveilleuse, devait dire à lui expliquer qu'il était en réalité un très grand chevalier. Mais moi, j'étais un naïf. Parce que je me souviens, Romer avait dit « Il me faut un mec qui a une tête d'ahuri comme le roi d'Angleterre. » Alors on lui a dit « Qui vous pensez ?» Et il y a quelqu'un qui a dit « Mais il faut appeler Fabrice Lucchini. » Moi je débarque, puis il me dit « Voilà, je veux un homme qui a l'air naïf, qui a l'air un peu bête. » Je dis « Bon, ben oui, pourquoi pas ?» Et donc, me voilà en train de rentrer dans la forêt. La forêt, c'était des trucs en ciment et en plâtre qui représentaient des espèces d'artichauts très gros. Et tout était transposé en studio et rien de naturaliste. Le projet était sublime, mais les gens étaient déstabilisés. Et donc, me voilà-t-il pas en train de rentrer. Et puis, Pascal G devait me dire « Votre père, s'il ne savait, avec des gestes du Moyen-Âge, votre père, s'il ne savait, vous voyez, ça veut dire « Vous ne savez pas que votre père, d'accord. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous qui tout petit étiez, deux grands frères moulbotaviez, quand chevalier à Doubé furent, le jour même au combat moururent. Et la mère disait, jouée par Pascal de Boisson, « Du deuil du fils mourut le père, et j'ai eu une vie moult amère. » Et là, ça se barrait. Hein, « Et j'ai eu une vie moult amère. Hein. » Le chevalier sans nul arrêt. » Parce qu'il y avait des petits intermèdes musicaux. « Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt, car en les forêts solitaires plus s'y connaît qu'en plate terre. Et là, 500 personnes qui se battent. Et chevaucha tant et si bien. Et chevaucha tant et si bien. Qu'apparut une ville au loin. Et là, je tape à la porte du pont-levis parce que tout était en carton. Et il y avait Marie Rivière qui disait « Qui donc appelle ?» Et moi, je répondais « Un chevalier suis qui dedans me fassiez entrer, etc. Oui, vous l'aurez, mais peu de gré vous m'en aurez, vous m'en saurez. » Bon, donc évidemment, tu comprends avec ces intermèdes, chevalier sans nul arrêt, va chevauchant par la forêt, car on les forêts solitaires. Dans mon spectacle, j'imitais Johnny qui devienne chrétien de Troyes, car on les forêts solitaires, ah, plus s'y connaît qu'en plate terre. Et chevauchant tant et si bien, donc, donc, et chevauchant tant et si bien, bon, bon. Qu'apparut une ville au loin. Et là, c'est la merveille de Perceval qui continue comme ça. Et c'était merveilleux parce que... Pourquoi je vous parle de ça? Puisque ça avait une ambition poétique. Oui, parce que Chrétien de Troyes est un poète. Et c'est peut-être l'ambition de la deuxième émission, qui sera ma dernière, qui va essayer de vous dire, par exemple, pourquoi Jules Renard est aussi un poète. Oui, ou pourquoi Labiche, merveilleux, dramaturge, pourquoi pour moi c'est un poète? Pourquoi j'ai essayé d'élargir ma perception de la poésie? Par exemple, quand Jules Renard écrit « Je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai le dégoût très sûr », on se dit « Merde, ça s'appelle un poète ». Dans un très beau livre qui s'appelle « Histoire naturelle », Jules Renard parle de tous les animaux merveilleux. Et à un moment, il y a marqué « Le ver luisant ». Tu vois, il a parlé de la poule, il a parlé du coq, il a parlé des moutons. Puis à un moment, il a marqué le ver luisant. Et il écrit une ligne comme un poète taoïste. Il a marqué le ver luisant et il y a juste une ligne. Et la ligne, c'est « Tiens, 9h du soir, il y a encore de la lumière chez lui ». Voyez, moi, si ça, c'est pas de la poésie, ben, je ne m'y connais pas. La poésie, c'est un moment rare qui te déplace quelque part, un moment étonnant qui te déplace. Et moi, je dirais modestement que pour moi, la poésie, c'est le moment où la personne formule ce que tu avais éprouvé, mais que tu n'avais jamais eu le génie de traduire. Voilà. Le mot, c'est traduire. Voyez ce que je veux dire? Oser dire le ver luisant. Tiens, 9h du soir, il y a encore de la lumière chez lui. Je ne sais pas, moi, encore du Jules Renard qu'on pourrait sortir, que je mets souvent dans mes spectacles pour aérer. Et puis la fontaine. Mais ça, ce sera pour la dernière émission. «
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Je voudrais remercier, mais vraiment particulièrement pour cette avant-dernière émission, Xavier Pestoggia à la réalisation, Delphine Baudet à la technique, a su mettre le micro bien placé, Thierry Dupin pour la musique, Emmanuel Garacino, et là je ne vais pas le redire inlassablement, mais alors là, c'est elle qui a décidé que je revienne pour ces deux dernières, parce que là j'en pouvais plus, parce que traverser Paris de Montmartre pour venir ici, c'est une aventure, je dirais, pas tellement poétique. Et donc, nous nous retrouvons dimanche prochain à 19h20 pour cette dernière conversation sur la poésie avec quelqu'un qui est inattendu, la biche, bizarrement, et évidemment la fontaine, c'est-à-dire nous finissons par où nous avons commencé. Bonne soirée.